Et pour nous qui restons, vous pouvez ouvrir votre Bible dans l'évangile de Jean, au chapitre 18, parce qu'on regarde à quelques rencontres que Jésus a faites dans l'évangile de Jean. On avait vu Nathanaël, Nicodème, la femme samaritaine, et on fait un peu un grand saut maintenant dans l'évangile de Jean, et on en vient à Pilate, le chef romain qui a condamné Jésus. Donc l'évangile de Jean, au chapitre 18, et je vais lire les versets 28 à jusqu'au chapitre 19, verset 16. Donc c'est une assez longue lecture, juste pour qu'on ait toute cette rencontre de Jésus et Pilate, même si on s'arrêtera pas sur tout après. Et peut-être pour vous aider à être attentif pendant la lecture, ce que vous pouvez essayer de faire, en plus d'écouter la lecture, c'est d'être assez attentif au mouvement de Pilate. Essayez de voir où il est, où il se trouve géographiquement. Qu'est-ce qu'il fait? On reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc prêtez l'attention particulièrement au mouvement de Pilate dans ce passage. Donc Jean 18, 28. De chez Caïphe, c'est-à-dire les Juifs qui ont arrêté Jésus, ils emmenèrent Jésus au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Vous pouvez remarquer un peu l'hypocrisie ici des chefs juifs qui ont beaucoup de scrupules à observer la loi, à observer la Pâque, mais lorsqu'il s'agit de livrer Jésus, qui pourtant est celui que toute la symbolique de la Pâque préfigurait, alors là, ils n'ont plus aucun scrupule, hein. Pilate sortit donc pour aller vers eux et il dit: Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Et ils lui répondirent: Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent: Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et il lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit: Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait? Jésus répondit: Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit: Tu es donc roi? Jésus répondit: Tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit: Moi, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. Mais c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs, donc Jésus? Alors de nouveau, ils crièrent: Non, pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Alors Pilate fit prendre et flageller Jésus. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils mirent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis ils s'approchaient de lui et disaient: Salut, roi des Juifs! Et ils lui donnaient des gifles. Pilate sortit de nouveau. Il dit aux Juifs: Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit: Voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les gardes le virent, ils crièrent: Crucifie! Crucifie! Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve pas de motif de condamnation en lui. » Les Juifs lui répondirent: « Nous avons une loi, et selon la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Donc là, la raison pour les Juifs de condamner Jésus, c'est le blasphème, soi-disant, parce que Jésus aurait blasphémé. Et quand Pilate entendit cette parole, sa crainte augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus: « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit alors: « À moi, tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier? » Jésus répondit: « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi, et probablement qui fait référence là au chef des Juifs, qui aurait dû savoir que Jésus était l'accomplissement des promesses, c'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs crièrent: « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, après avoir entendu ces paroles, amena Jésus dehors et s'assit au tribunal, au lieu dit le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure. Il dit aux Juifs: « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent: « À mort, à mort, crucifie-le. » Pilate leur dit: « Crucifierai-je votre roi? » Les principaux sacrificateurs répondirent: « Nous n'avons de roi que César. » Ça était effectivement un blasphème, en fait. Ils condamnent Jésus pour blasphème, et pour s'assurer qu'il sera bien condamné, ils se rendent eux-mêmes coupables de blasphème. Les Juifs ne devaient pas dire une chose pareille. Alors, Pilate le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Voilà. Qu'est-ce que la vérité? C'est la question que Pilate a posée à Jésus au verset 28, au 38, pardon, si vous regardez encore. Pilate lui dit: « Qu'est-ce que la vérité ?» Et quelle question, n'est-ce pas? Parce que depuis la nuit des temps, depuis toujours, depuis l'Antiquité, les philosophes grecs, jusqu'à aujourd'hui, pour nous encore, c'est une question qui résonne, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la vérité? Qui d'entre nous ne s'est jamais posé cette question, d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou sous une autre, peu importe, mais je crois qu'on arrive à se mettre à la place de Pilate, qui est là face à Jésus et qui pose cette question, parce qu'on s'est tous posé un jour ou l'autre cette question, que ce soit dans un vrai esprit de recherche. Qu'est-ce qui est la vérité dans ma vie par rapport à telle ou telle situation, pour m'orienter dans mes choix? Qu'est-ce qui est la vérité? Ou peut-être plutôt par cynisme. Qu'est-ce que la vérité? Par désespoir devant toutes les incertitudes de la vie et la seule certitude que nous avons tous, et qui est celle de notre mort. Certaines personnes vont vous dire ça. Qu'est-ce que la vérité face à l'apparente absurdité de la vie? Et donc cette question, qu'est-ce que la vérité? Je ne crois pas qu'elle nous surprend, même si elle est dans la bouche de Pilate ici, qui n'est pas un philosophe. Elle nous surprend parce qu'on s'est déjà tous posé, mais il y a autre chose qui doit nous surprendre ici. Ce n'est pas la question qui doit nous surprendre, mais c'est la réponse. Quelle est la réponse que Pilate reçoit à sa question? Qu'est-ce que la vérité? Il n'y a pas de réponse. Il en reçoit aucune. Verbalement, en tout cas, parce que ce qu'on va voir dans un instant, je crois que toute cette confrontation entre Jésus et Pilate, c'est la réponse en acte, plutôt qu'en parole, à cette question de Pilate. Toute cette confrontation, et même tout l'évangile, en fait, est une réponse. Mais Pilate, dans un premier temps, en tout cas, directement, il ne reçoit pas de réponse. Et je crois même qu'on peut être un petit peu plus exact, parce que non seulement il reçoit aucune réponse, mais il en attend aucune. Regardez encore une fois le verset 38. Pilate lui dit: « Qu'est-ce que la vérité? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau. Il pose sa question et il s'en va. Il n'attend même pas la réponse. Et ça nous montre d'emblée que En fait, à aucun moment, Pilate ne se soucie, ne se préoccupe réellement de la vérité. Et ça, c'est vraiment surprenant. Pourquoi est-ce que ça, le fait que Pilate ne se préoccupe pas de la vérité, pourquoi est-ce que ça, c'est surprenant, c'est même choquant, en fait, dans le contexte? Je crois que c'est choquant parce que on est dans un tribunal. Pilate, c'est un juge. Il doit rendre un verdict. Imaginez que vous soyez vous traîné en justice, que ce soit vous qui soyez là sur le banc des accusés. Est-ce que vous ne croyez pas que, à ce moment-là, plus qu'à aucun autre moment dans votre vie probablement, vous vous préoccuperiez de la vérité et vous aimeriez que la personne qui est en face de vous, c'est-à-dire le juge, se préoccupe de la vérité et qui cherche à établir la véracité des faits? C'est ce qu'on aimerait, n'est-ce pas, si nous on était dans un tribunal. Mais voilà, Pilate qui siège au tribunal, et qui c'est qui doit soulever la question de la vérité? C'est l'accusé. C'est Jésus qui doit soulever la question de la vérité. Et Pilate, lui qui est juge, par contre, il balaye la notion même de vérité du revers de la main. Ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas du tout. Alors qu'il est en face de celui qui, à peine plus tôt dans l'évangile de Jean, a dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelle triste ironie de voir ça. Et quand on voit cette injustice qui est faite là à Jésus, qui est face à un tribunal qui ne se préoccupe pas du tout de la vérité, il n'y a pas à s'étonner que nous aussi, en tant que chrétiens, en tant que disciples du Christ, qu'on puisse subir l'injustice parfois aussi, n'est-ce pas? Mais voyez, rien que par cette question sans réponse de Pilate, qui est, je crois, une réponse cynique et moqueuse, qu'est-ce que la vérité? Il veut juste arrêter la discussion avec Jésus. Rien que par cette question sans réponse, on voit que dans cette confrontation entre Jésus et Pilate, il y a deux réalités qui s'opposent. D'une part, avec Pilate, son attitude face à Jésus établit quelle est la vérité concernant le pouvoir. C'est la vérité du pouvoir. Et d'autre part, Jésus, lui, nous révèle quel est le pouvoir de la vérité. C'est ces deux choses que j'aimerais qu'on voit, c'est la vérité du pouvoir et le pouvoir de la vérité. Mais avant d'en venir à ces deux points, j'aimerais juste vous montrer que ce procès de Jésus par Pilate, il fait partie d'un autre procès, bien plus grand celui-là encore, entre Dieu et le monde. Si vous voulez, là, c'est comme si on avait une loupe sur un détail, mais qui doit être vue dans une histoire plus grande. Il faut qu'on prenne une caméra à grand angle pour voir comment ce détail se trouve dans son contexte. D'accord? Tout le ministère de Jésus doit se comprendre comme un procès cosmique, c'est-à-dire à l'échelle du monde, entre Dieu et les hommes. Procès de Dieu contre le monde. Un procès avec ses témoins, avec ses accusés, ses juges, son verdict, etc., etc. Et en fait, c'est ce que Jésus lui-même dit ici. Si vous regardez au verset 37, Pilate dit à Jésus: Tu es donc roi? Jésus répondit: Tu le dis, je suis roi. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Et voilà ce qu'il dit: Voici pourquoi je suis né, et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Comment est-ce que Jésus se présente ici? Il se présente comme un témoin, n'est-ce pas? Témoin de la vérité, témoin à charge dans le procès de Dieu contre le monde. En fait, l'apôtre Jean, qui nous rapporte ces lignes, au tout début de l'évangile, nous dit que Jésus est venu comme une lumière, que Jésus était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Mais il dit aussi que la lumière, en venant dans le monde, dans les ténèbres de ce monde, elle a brillé dans les ténèbres, mais que les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Hein, donc, Ce qui nous montre, c'est que Jésus est venu, rien que par sa venue comme une lumière dans le monde, Jésus entre en conflit avec le monde. C'est ce qu'on lit au chapitre 3, si vous revenez un peu avec moi, un peu plus tôt dans l'évangile, en Jean 3, verset 17. Où on lit ceci, en Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement, il y a un jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En témoignant de Dieu dans le monde, Jésus entre en jugement avec le monde. Il est à la fois témoin et juge dans le procès. Il y a bien un procès ici. On pourrait s'arrêter sur d'autres passages dans l'évangile, mais je ne vais pas le faire, mais simplement vous donner une citation de quelqu'un qui explique cette idée du procès entre Dieu et le monde qu'on voit dans les pages de l'évangile de Jean. Voilà ce qu'il dit. Il dit, telle la proue d'un bateau qui rejette les eaux à droite et à gauche, Jésus contraint les hommes à se prononcer pour ou contre lui. Aussi, son jugement est à la fois futur et présent, et le procès se déroule à la fois sur terre et dans le ciel. Et vous voyez ce qu'il dit, parce que Jésus est le véritable Fils de Dieu, saint, juste et glorieux, venu comme une lumière dans le monde, dans un monde de ténèbres à cause de son péché, par sa sainte venue, sa sainte présence dans le monde, Jésus montre que Dieu est en procès contre le monde et que le monde est condamné par Dieu. Mais voilà comment est-ce qu'il termine cette citation. Il dit « Le témoin venu du ciel, donc Jésus, à qui Dieu, lui-même, ses œuvres, les Écritures, Jean-Baptiste rendent témoignage, lui qui sera l'objet de l'attaque sournoise puis ouverte du monde, va être condamné par les hommes. » Et vous voyez ce qu'il dit, c'est que Jésus qui est témoin et juge dans le procès de Dieu contre le monde, pour cette raison précisément, il devient accusé puis condamné dans le procès du monde contre Dieu. Et cette inversion, ce revirement, on le voit au chapitre 11 dans l'évangile de Jean. Et je vous montre encore, on va encore lire juste ce passage avant de revenir à notre texte. Chapitre 11, verset 49. Il y a deux grandes parties dans l'évangile de Jean, les 12 premiers chapitres et puis les chapitres 13 à la fin. Et donc là, on est simplement à la fin de la première partie. Et Jésus, par son enseignement, par ses miracles, il commence à inquiéter les autorités juives qui se disent « Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de lui ?» Et voilà ce qui nous est dit ici en Jean 11, 49. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien. Vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour que le peuple et que la nation entière ne périssent pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » Et voilà, écoutez bien. « Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. » Et littéralement, dès ce jour, ils rendirent leur verdict. C'est un terme légal, juridique ici. Ils rendirent leur verdict de mort. On est seulement à la fin de la première partie de l'évangile, mais c'est déjà fini. Le procès est terminé. Le verdict est rendu. Et d'ailleurs, c'est frappant que Jean, contrairement à tous les autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, il ne nous rapporte même pas le procès de Jésus devant les autorités juives. Parce que le procès est déjà terminé à ce moment-là. Et en fait, la prochaine fois où on retrouve Caïphe, qui est nommé ici, hein, c'est lui qui parle, la prochaine fois où on le retrouve, c'est où? C'est justement dans notre passage, hein, en Jean 18, verset 28, au tout début du texte que j'ai lu avant. Si vous revenez donc à notre texte, en Jean 18, 28, on apprend que c'est de chez Caïphe que les Juifs amènent Jésus à Pilate. En Jean 18, 28, de chez Caïphe, ils emmenèrent Jésus au prétoire. C'était le matin, etc. Ok. Pourquoi est-ce que je vous montre tout ça? Rapidement ce survol. Pourquoi est-ce que je vous montre qu'il y a cette idée d'un procès de Dieu contre le monde? Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Je vous montre tout ça parce que devant le tribunal de Pilate, Jésus affirme, et on l'a vu tout à l'heure, il affirme qu'il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et la vérité, c'est que le monde est condamné et que celui que le monde est en train de condamner, c'est le seul juste et véritable Fils de Dieu. Et c'est ça la vérité dont Jésus est témoin et qu'il incarne en fait par sa simple présence dans le monde. C'est que le monde est condamné dans son péché et que celui qu'il est en train de condamner, c'est le seul juste et le véritable Fils de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir maintenant un peu plus précisément en s'arrêtant donc sur ces deux réalités dont je vous ai parlé qui se confrontent, Pilate et la vérité du pouvoir et Jésus et le pouvoir de la vérité. Donc premièrement, la vérité du pouvoir. Et on va relire, si vous voulez bien, juste les versets 8 à 11 du chapitre 19. Il y a deux vraiment interrogatoires que Jésus passe chez Pilate. Il y en a un premier, on va y revenir tout à l'heure. Puis le deuxième, c'est au chapitre 19, versets 8 et suivants. Pilate essaye de relâcher Jésus, on l'a bien vu. Il est convaincu de son innocence. Mais les Juifs ont tellement envie, ils insistent tellement qu'ils soient accusés, qu'après un long moment, ils expliquent vraiment quelle est leur vraie raison pour condamner Jésus. Ils disent au verset 7, c'est parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Voilà, c'est la seule charge qu'ils ont contre lui. Et donc je lis à partir du verset 8. Quand Pilate entendit cette parole, sa crainte augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu ?» Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit alors, « À moi, tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir? C'est ça que Pilate dit. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir? Il est convaincu d'avoir le contrôle sur la situation, d'avoir le pouvoir, d'être indépendant dans son jugement, libre de se prononcer pour ou contre Jésus. Et c'est vrai que quand on y pense, d'une part, les Juifs sont obligés de venir vers lui, hein, parce qu'ils sont en terrain conquis, ils ne peuvent pas ils peuvent pas condamner Jésus à mort, ils sont obligés de venir vers l'autorité romaine, ce qui devait être assez humiliant pour eux, de venir vers Pilate, mendier le droit de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Et d'ailleurs, Pilate ne se prive pas de leur faire remarquer, je ne sais pas si vous avez vu au tout début, lorsque les Juifs viennent vers lui et qu'ils lui demandent de condamner Jésus, Pilate, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, mais non, allez-y, condamnez-le vous-même, alors qu'il sait très bien qu'ils ne peuvent pas le faire. Mais ça, si vous voulez, c'est un peu comme s'il leur disait, mais allez-y, condamnez-le, ah, oups, pardon, j'ai oublié, vous ne pouvez pas, en fait. C'est moi qui ai tout pouvoir ici. Hein, c'est un peu une... Il les nargue. Il est vaniteux dans son pouvoir ici. Donc, les Juifs sont sous son pouvoir, c'est vrai, d'une part. Et d'autre part, Pilate semble effectivement avoir le pouvoir absolu de relâcher ou de crucifier Jésus. Mais Jésus lui dit au verset 11, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut, c'est-à-dire de Dieu. » Autrement dit, si... Tu es juge sur moi uniquement, pourquoi? Parce que ça a toujours été dans le plan. Ou, comme il nous est dit un peu plus tôt, au chapitre 18, verset 32, si Jésus s'est retrouvé à la merci de Pilate, c'est pour une seule raison uniquement, c'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il devait mourir. C'est ce qu'il nous a dit en 18, 32. Parce que Jésus avait dit qu'il devait être élevé, c'est-à-dire crucifié, et seulement les Romains pratiquer la crucifixion. Donc Jésus est en train de dire à Pilate, tu es juge sur moi uniquement parce que c'est dans le plan. c'est Dieu qui est en contrôle. Et c'est vrai dans cette situation-là, c'est vrai dans nos vies aussi, n'est-ce pas, que malgré les apparences, Dieu reste en contrôle sur chacune de nos circonstances et il mènera à bien toute chose selon son projet. On peut en être assuré. Mais vous voyez ce que Jésus dit à Pilate, ça va extrêmement lent en fait. Voilà ce qu'il est en train de lui dire, il lui dit ça. Il lui dit, la vérité du pouvoir, c'est qu'il est illusoire, pour deux raisons. Le pouvoir de Pilate est illusoire, premièrement parce que Pilate est contraint, contre son gré, de prendre une décision concernant Jésus. Il doit prendre une décision. Ça, c'est la première raison pour laquelle son pouvoir est illusoire. C'est parce que Pilate est contraint, contre son gré, de prendre une décision concernant Jésus. Je m'explique. Je vous ai demandé tout à l'heure, pendant la lecture, de faire attention au mouvement de Pilate. Je ne sais pas si vous avez regardé. Qu'est-ce qui vous a frappé? Vous avez remarqué quelque chose? Peut-être pas, mais... Il sort, et puis il rentre, et puis il sort, et puis il rentre, et puis il sort, et puis il rentre sans arrêt. Alors d'abord, il sort pour aller voir les Juifs qui lui apportent Jésus, et puis il rentre avec Jésus pour l'interroger, parce que c'est la finie, il sort pour voir les Juifs à nouveau, et puis il rentre pour faire fouetter Jésus, et puis il ressort pour parler aux Juifs, et puis il rentre à nouveau pour interroger Jésus, puis il ressort encore une fois. Il y a 7 épisodes comme ça, et c'est comme, on pourrait dire, un peu une pièce de théâtre en 7 actes, qui ont lieu alternativement dans un décor extérieur ou intérieur, sauf que c'est pas une pièce de théâtre. Et Pilate, il fait comme ça, la navette entre Jésus et les Juifs, il fait le va-et-vient entre celui qui révèle la vérité et ceux qui ont rejeté la vérité. Et tout ce qu'il essaye de faire, c'est d'éviter de devoir prendre une décision. C'est ça qu'il tente par tous les moyens d'éviter de prendre une décision. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu que Jésus est innocent, donc il ne veut pas le condamner, mais il a tellement peur des Juifs qu'il ne veut pas le relâcher. Donc il ne veut pas prendre de décision. Alors qu'est-ce qu'il fait? Vous avez remarqué, il tente, il ruse. Premièrement, il évoque une coutume de l'époque. Il leur dit, bon écoutez, c'est la Pâque. Hein, alors pourquoi est-ce que je ne vous libérerai pas un prisonnier? Tiens, est-ce que je ne vous libérerai pas Jésus? Et les Juifs crient, non, crucifie-le et libère Barabbas. Et donc il voit bien que sa ruse ne fonctionne pas, donc il essaie une autre ruse, il essaie le compromis, il rentre, il prend Jésus, il le fait fouetter, en espérant que ça satisfera les Juifs et que ça suffira pour qu'ils puissent relâcher Jésus. Mais il a beau faire tout ce qu'il peut, il a beau essayer de ménager la chèvre et le chou, hein, c'est ça qu'il essaie de faire, il a beau tenter de ne pas avoir à prendre de décision, par son exemple, il nous montre qu'une décision concernant Jésus est inévitable. Il n'y a pas de compromis possible. Si vous rappelez la citation que je vous ai donnée tout à l'heure, « Telle la proue d'un bateau qui rejette les eaux à droite et à gauche, Jésus contraint les hommes de se prononcer pour ou contre lui. » Et je crois qu'il nous faut prendre ça en compte aujourd'hui, que les affirmations de Jésus sont tellement radicale, tellement exclusive aussi, qu'on ne peut pas rester indéfiniment neutre devant lui. Il y a une décision qui doit être prise pour ou contre Jésus. Seulement, et c'est là la deuxième illusion du pouvoir de Pilate, seulement, non seulement Pilate est contraint contre son gré de prendre une décision concernant Jésus, mais deuxièmement, son pouvoir est illusoire aussi parce que Pilate est contraint non seulement de prendre une décision concernant Jésus, mais il est contraint de prendre la mauvaise décision concernant Jésus. Il est contraint de se prononcer contre. Et là, je crois qu'on arrive vraiment au cœur du problème qui est le sien et qui est le nôtre aussi. J'ai lu récemment un petit livre de Albert Einstein. On sait tout ce qu'il sait, hein. C'est un des plus grands scientifiques du XXe siècle, qui a marqué vraiment le siècle. Et il a écrit un petit livre qui s'appelle « Comment je vois le monde ». Ce n'est pas du tout un livre scientifique, c'est un livre qu'on peut lire très facilement. Il explique simplement sa vision du monde, de la vie, etc. Et il dit quelque chose qui, je crois, nous aide à comprendre la situation de Pilate ici et qui va nous aider aussi à l'appliquer pour nous. Donc je vous lis juste ce qu'il dit, d'accord? Voilà ce qu'il dit. Je me refuse à croire en la liberté et en ce concept philosophique. Je ne suis pas libre, mais tantôt contraint par des pressions étrangères à moi, ou tantôt contraint par des convictions intimes. Ce qu'il dit, c'est que notre pouvoir, il est limité par des contraintes de toutes sortes. Et puis voilà comment il termine. Lorsque j'étais jeune, j'ai été frappé par cette phrase d'un écrivain. L'homme peut certes faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. L'homme peut certes faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. Il observe, je crois, quelque chose de très juste, c'est que le pouvoir qu'on exerce sur notre vie, c'est vrai pour Pilate, c'est vrai pour nous aussi, le pouvoir qu'on exerce sur notre vie pour prendre des décisions, pour faire des choses, ce pouvoir-là, il est illusoire. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, même si on peut certes faire ce qu'on veut, dans une certaine mesure en tout cas, accomplir certaines choses, on ne peut pas réellement vouloir ce qu'on veut. Pourquoi? C'est ce qu'Einstein dit, c'est parce qu'on est tantôt contraint par des pressions étrangères à nous, on n'est pas vraiment maître de notre vie, on est le produit de toutes sortes de choses, on est le produit des gènes que nos parents nous ont transmis, on est le produit de notre environnement social, de notre éducation, des choix qu'on fait, hein, au fur et à mesure de notre existence, les choix de vie se réduisent à cause des choix qu'on a faits. Je suis contraint par des tas de choses qui échappent à mon contrôle. Je ne peux pas être un sportif de haut niveau parce que j'ai les capacités physiques que j'ai, par exemple. Donc on n'est pas maître de notre vie parce qu'on est tantôt contraint par des pressions étrangères à nous-mêmes, mais on n'est pas maître de notre vie non plus parce qu'on est tantôt contraint, et ça c'est plus profond encore, tantôt contraint par des convictions intimes au plus profond de nous-mêmes. La Bible nous dit que au plus profond de l'être humain, si on creusait vraiment la dalle de fond, hein, comme quand on construit une maison, avant de construire, on va couler une dalle en béton et qui sera enfouie une fois que la maison aura été construite, mais si on creuse un peu, elle est bien là. La dalle de fond de chaque être humain, la Bible nous dit qu'elle est fondamentalement de biais, elle est tordue, elle est déformée par le péché. Et que plutôt que d'être d'aplomb avec la réalité de Dieu, l'homme, il est incurvé naturellement en lui-même, rebelle à Dieu dans son égoïsme, dans son orgueil, dans son envie d'être seul maître sur sa vie, que ce soit par un rejet direct de Dieu ou en cherchant à rendre Dieu redevable envers lui, en vivant une vie morale et correcte, etc. Mais cette nature profonde, qui est la vôtre, si Dieu ne l'a pas radicalement changée, dont vous êtes responsable, qui n'est plus la nôtre si nous sommes chrétiens et si Dieu a changé notre nature, mais dont nous subissons encore l'influence, malheureusement, cette nature profonde de l'homme, elle contraint l'homme à se prononcer dans un sens concernant Dieu. Il y a une direction fondamentale. Elle contraint l'homme à se prononcer contre Jésus. Prenez Pilate. Il nous a dit qu'il veut relâcher Jésus. Mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut parce qu'il y a quelque chose de plus profond encore, de plus intime encore, qu'il contraint. Il est contraint au point de ne pas pouvoir faire ce qu'il veut parce qu'il y a quelque chose d'autre qu'il veut encore plus. Il est complètement imbu de lui-même, vaniteux. Il se préoccupe de sa réputation. On le voit dès que les Juifs le menacent de le dénoncer à César. Et lui disent, mais tu ne seras plus ami de César. Tu ne seras plus appelé ami de César. Il est imbu de son pouvoir. Et le pouvoir, il est très facile de faire du pouvoir une idole, n'est-ce pas? C'est vrai pour les politiciens, mais c'est vrai à notre échelle aussi de faire de notre pouvoir sur notre vie, du contrôle qu'on exerce un peu sur nos circonstances, de faire de ça une idole qui satisfait à notre besoin de sécurité, d'affirmation de soi, que sais-je encore. C'est vrai qu'on peut utiliser le pouvoir pour servir les autres, mais regardez Pilate. Pilate, il n'utilise pas son pouvoir pour servir les autres, mais comme une fin en soi, qui lui donne le sentiment d'exister. On voit ça, c'est son attitude face à Jésus qui nous le montre. Parce que, comme je disais, dès qu'il apprend au verset 12, vous pouvez voir, dès qu'il apprend que les Juifs sont prêts à le dénoncer à César s'il relâche Jésus, Dès ce moment-là, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs crièrent: Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Dès qu'il voit que sa sécurité, son pouvoir sont menacés, alors là, ça le contraint à se prononcer contre Jésus. Et ça nous montre que la vérité du pouvoir que nous croyons avoir sur nos vies, il est illusoire. Nous ne sommes pas libres parce que nous sommes esclaves du péché. Il y a une orientation fondamentale à l'homme contre Dieu. Dans le procès de Dieu contre le monde, l'homme n'est pas le juge, il est accusé. Une décision doit être prise pour ou contre Jésus. Mais le drame, c'est que l'homme par lui-même, il est parfaitement incapable de se prononcer pour Jésus. Et ça, c'est le dilemme fondamental de l'homme sans Dieu, n'est-ce pas? Et seule la vérité a le pouvoir de changer les choses. Et ce que j'aimerais qu'on voit brièvement maintenant, c'est le pouvoir de la vérité. Deuxièmement, on a vu la vérité du pouvoir. Deuxièmement, le pouvoir de la vérité. Et on va relire cette fois le premier interrogatoire. C'est au chapitre 18, les versets 33 et suivants. Donc les Juifs amènent Jésus vers Pilate, et Pilate rentre dans son palais avec Jésus et il l'interroge. Chapitre 18, verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit: Moi, suis-je donc juif? Un sous-entendu, comment est-ce que je saurais ça, moi? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait? Jésus répondit: Mon royaume n'est pas de ce monde. Et littéralement, il faut pas mal comprendre, ça veut pas dire qu'il n'est pas en train de dire mon royaume n'est pas de ce monde, dans le sens qu'il a aucun lien avec ce monde. Il dit mon royaume n'est pas issu de ce monde. C'est ça que le texte dit littéralement. Mon royaume n'est pas issu de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit: Tu es donc roi? Jésus répondit: Tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né, et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Et après avoir dit cela, il sortit de nouveau, etc. Et je ne vais pas lire la suite. Vous voyez, quand Pilate lui demande s'il est roi des Juifs, la réponse de Jésus, elle est un peu ambiguë, n'est-ce pas? Dans un premier temps, il semble qu'il dise non, verset 36, parce qu'il dit: Ben, si j'étais roi, mes serviteurs, ils auraient combattu pour moi. Ils ne m'auraient pas laissé me faire attraper. Donc il semble dire non, et puis ensuite, il semble dire oui au verset 37, parce que lorsque Pilate lui demande pour la deuxième fois: Tu es donc roi? Jésus répond: Tu le dis, je suis roi. Il semble dire oui, non. Pourquoi est-ce qu'il y a une ambiguïté comme ça? Et je crois que l'ambiguïté, elle est due, l'ambiguïté de la réponse de Jésus, elle est due à la personne à qui il s'adresse. Parce que Pilate, à aucun instant, il s'intéresse de savoir si Jésus est le Messie, le roi descendant de David, qui vient annoncer la venue du royaume de Dieu. Ça l'intéresse pas. Ça intéresse les Juifs. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Ça ne le concerne pas. Pilate, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est de savoir si Jésus est un dirigeant politique. Lorsqu'il lui dit: Es-tu roi des Juifs? Tout ce qu'il veut vraiment savoir, c'est si Jésus est une menace pour son pouvoir à lui ou le pouvoir de Rome. C'est ça la question, vraiment. Et du coup, à cette question, Es-tu le roi des Juifs? Ben, la réponse, d'un côté, c'est non. Parce que Jésus n'est pas un dirigeant politique qui passe des lois, qui utilise la force. De même que nous qui sommes ses disciples, on n'est pas appelés à fonder un État chrétien, à fonder un parti politique chrétien. Donc la réponse, dans un temps, c'est effectivement non. Mais d'un autre côté, la réponse à cette question, es-tu le roi des Juifs? C'est oui aussi, parce que Jésus, c'est effectivement le Messie des Juifs, le roi éternel de gloire qui vient dans son royaume. Et du coup, la réponse que Jésus donne, elle est parfaitement exacte. Elle lui permet de ne pas être mal compris en disant: Mon royaume, comme je vous disais, n'est pas issu de ce monde, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il ne vient pas de ce monde. Il est d'une toute autre nature que les royaumes de ce monde. Sa royauté est complètement différente. Parce que l'avènement de son royaume, ce n'est pas le fait d'une personne puissante qui se serait emparée du pouvoir, mais c'est le fait d'un homme faible et mourant qui a renoncé au pouvoir. Et c'est ce qu'on voit, la démonstration de ça est faite un peu plus loin, au chapitre 19, verset 2, lorsque Pilate prend Jésus, il le fait fouetter, et on lit au verset 19, verset 2, « Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils mirent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. » Voilà la royauté de Jésus. Puis ils s'approchaient de lui et disaient « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des gifles. Voilà, Dieu lui-même juge sur le monde, comme on l'a lu au tout début du culte dans le psaume 115, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Voilà ce Dieu-là qui fait tout ce qu'il veut. Il avait tout pouvoir, contrairement à Pilate, où son pouvoir n'était qu'une illusion. Lui, il a tout pouvoir. Et pourtant, il a renoncé à ces pouvoirs-là pour se laisser lier. Il a renoncé à sa couronne de gloire pour une couronne d'épines, couvert de honte, frappé. Comme on l'a lu tout à l'heure en Ésaïe 50. « Je ne me suis pas rebellé. » C'est Jésus qui parle. « Je ne me suis pas rebellé. Je ne me suis pas retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. » Et c'est justement dans ce moment-là, et puis à la croix, que quand Jésus porte cette couronne d'épines, que la vérité brille d'autant plus fortement aux yeux de tous. C'était la question, rappelez-vous, de Pilate au départ. Qu'est-ce que la vérité ? Et on avait dit, la vérité, c'est quoi ? C'est que le monde est condamné et que celui qu'il condamne est le seul juste et véritable Fils de Dieu. Le monde est condamné. Et on le voit dans cette image de Jésus portant une robe pourpre avec une couronne d'épines, frappé, craché au visage. Le monde est condamné. Ce qu'il démontre en rejetant Jésus ici, la lumière venue dans les ténèbres, dont le seul tort, c'était quoi ? C'était de venir exposer les ténèbres, exposer le péché du monde. Le monde est condamné et celui qu'il condamne est le seul juste et véritable Fils de Dieu. Lui dont le royaume, effectivement, il n'est pas issu de ce monde, mais dont le royaume est pour ce monde. Il est venu pour nous libérer de notre captivité du péché, le péché qui nous tient dans l'illusion d'être réellement libre, d'être réellement maître de notre vie. Christ nous libère de ces illusions, de ce déni, et nous accorde une vraie liberté en lui. Comment ? En se livrant lui-même. Il nous libère en se rendant captif pour être crucifié. Et il ouvre, par sa mort, à notre place, un chemin de vie vers Dieu. Et il est réellement le chemin, la vérité et la vie. J'aimerais juste terminer avec deux remarques, simplement pour conclure un peu. Pilate a posé cette question, qu'est-ce que la vérité ? Il a posé cette question, il n'a pas attendu la réponse. Il s'est tourné, il est parti, alors qu'il avait la vérité devant les yeux. Et du coup, il est resté dans l'illusion d'être maître sur sa vie, d'être libre, en contrôle, de gérer les choses, d'avoir le pouvoir, alors qu'en réalité, il était esclave de son propre péché, aveugle dans son péché et incapable de se prononcer pour Jésus, alors qu'il était contraint de se prononcer. Et donc, j'aimerais vous encourager à vous poser cette même question aussi. Qu'est-ce que la vérité, d'une part, mais à attendre une réponse, parce qu'il y a une réponse. Comme j'ai un peu essayé de le montrer très mal, mais... On est condamné, mais Dieu a envoyé son Fils dans ce monde pour prendre notre condamnation à la croix et pour nous libérer du péché et faire une œuvre profonde dans notre cœur pour que nous soyons réellement libres. Voilà la première chose. Posons-nous cette question, qu'est-ce que la vérité ? Et attendons une réponse et cherchons-la. Puis deuxième chose, une dernière chose peut-être plus pour nous qui sommes croyants. Jésus a dit ailleurs dans l'évangile de Jean, « Si vous demeurez en moi, dans ma parole, Vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et à Dieu, il a dit, ta parole est la vérité. Et je crois qu'il faut qu'on se rende compte que même si Dieu a fait cette œuvre profonde dans notre cœur pour que nous tournions vers Christ par la foi et que notre situation devant Dieu a totalement changé, que nous ne sommes plus condamnés par Dieu, qu'il est plus comme un juge vis-à-vis de nous, que Dieu nous a recouvert de la justice de Christ, il nous a pardonnés, même si ces choses-là sont vraies pour nous, malheureusement on vit toujours encore partiellement dans l'illusion. Le péché nous trompe encore. La chair a des désirs qui sont contraires à l'esprit, c'est ce que Paul nous dit. Et donc on ne peut pas toujours vouloir faire ce qu'on veut. On ne peut pas toujours vouloir ce qu'on veut. Et Christ nous encourage par ses mots à nous regarder dans le miroir de la parole, à demeurer dans sa parole, à demeurer proche de la croix, demeurer près de lui pour connaître la vérité concernant l'état de notre cœur et concernant la grâce de Dieu, et que cette vérité-là nous rende libres, parce qu'elle nous montre d'une part que nous sommes bien plus pécheurs et rebelles à Dieu que nous n'oserions l'imaginer, et bien plus aimés et acceptés en Christ que nous n'oserions l'imaginer. Que nous puissions rester alors proches de la croix, et que cette vérité de Christ nous rende libres. Je vous invite à prendre quelques instants dans la prière, si peut-être une ou deux personnes veulent nous conduire dans la prière, et je terminerai ensuite.
Seigneur, nous voulons te remercier, te glorifier pour l'œuvre magnifique que tu as accomplie et qui a coûté autant de souffrances à notre Sauveur et qui l'a fait vivre vraiment une injustice de la part des hommes, mais c'était afin que ta justice venant du ciel soit accomplie sur cette terre. Nous te remercions de nous avoir éclairés au bon moment pour faire ce choix vraiment fondamental dans notre vie, de choisir de placer notre vie en direction de ta volonté exprimée en Christ, que tu nous as aidés à, tu nous as éclairés pour nous montrer que à cause de notre péché, nous avions besoin d'un sauveur. Et vraiment, nous, c'est de tout cœur que nous sommes tournés vers ce Sauveur comme étant la seule solution possible à notre problème de péché. Et merci Seigneur de nous avoir conduits jusque-là, et nous te prions pour ceux qui n'ont pas encore fait ce choix, que tu tournes leur cœur vers Christ pour leur salut. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Oui, au Seigneur, nous sommes vraiment tout petits ce matin en regardant ton amour pour nous, que ton Fils a pu aller jusqu'à la croix pour nous sauver. Merci pour ce message et au Seigneur que ta parole nous poursuive. Nous savons que tu es la parole et que tu donnes la vie éternelle, et c'est ce que nous voulons. Aide-nous Seigneur, parce que ta mort est efficace et puissante. Aide-nous à savoir comment venir à toi, à savoir comment s'accrocher à cette mort. Au nom de Jésus. Amen.
Père éternel, nous te remercions pour ta vérité, parce que c'est la seule vérité qui soit, et que, comme Jésus l'a dit, lorsque nous connaissons la vérité, elle nous rend libres. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous révèles dans ta parole que nous sommes condamnés devant toi dans notre péché, rebelles à toi, mais que tu es venu toi-même pour pallier à ce dilemme terrible dans lequel nous étions mis nous-mêmes, et que tu as pris sur nous notre condamnation, que tu as abandonné tout pouvoir pour te laisser lier, te laisser clouer sur une croix à notre place. Seigneur, nous te remercions parce que c'est ce qu'il fallait faire, il n'y avait rien, il ne pouvait rien être fait de moins que cela pour que tu puisses changer profondément notre cœur et nous amener à t'aimer, à te connaître et à vivre dans cette liberté des enfants de Dieu. Et nous te remercions pour ce si grand salut, nous te prions d'agir dans la vie des hommes et des femmes que nous connaissons, que tu as placés autour de nous pour qu'ils puissent connaître cette vérité et que cette vérité les rende libres aussi à leur tour. Seigneur, nous te prions toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ qui a tant fait pour nous. Amen. On va chanter un dernier cantique. Merci, ce sera mieux. Un dernier chant que vous devriez avoir normalement là-dedans, j'espère, j'ai oublié de contrôler, c'est le 46, dans 48. Enfin, c'est le dernier, je pense, donc en Jésus seul. Et vous pouvez vous lever pour le chanter. Est-ce que vous l'avez ou... C'est bon? Ok, super. D'accord.
Gardé par la puissance du Christ.
Avec une dernière bénédiction. C'est des mots de Jésus qui dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et qu'il ne s'alarme pas. Amen.